Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui a le bon profil pour vous accompagner digitalement. Bonne année 2025.
Priorité Santé, pour nous les femmes.
Notre santé d'abord.
C'est notre priorité. Oui à la santé, non au tabou.
Priorité Santé, question de femmes.
Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Notre santé est une question d'équilibre et lorsque des troubles affectent certains organes ou certaines glandes, cette alchimie, cette mécanique peut se gripper et entraîner un certain nombre de symptômes. Aujourd'hui, dans notre émission Questions de femmes, nous allons voir comment les différentes maladies de la thyroïde affectent notre santé. Fatigue, humeur, poids et même transit intestinal. Et ces troubles de la thyroïde sont fréquents et concernent davantage les femmes que les hommes. La thyroïde, elle fabrique des hormones essentielles pour le fonctionnement de l'organisme, d'où en cas de dysfonctionnement, un dérèglement qui peut concerner la santé cardiaque, la digestion, la température corporelle. En cas de changement, le médecin, l'équipe soignante peut vous orienter vers un bilan thyroïdien pour poser un diagnostic et envisager une prise en charge. Alors si vous avez des questions, si vous souhaitez partager une expérience dans Priorité Santé, notre numéro WhatsApp c'est le 33 761 18 46 41. En présence de quels symptômes faut-il faire un dosage des hormones thyroïdiennes? Dans quel cas une opération est-elle nécessaire? Toutes vos questions sur la santé de la thyroïde avec, à votre écoute, le docteur Charles Halim. Bonjour docteur.
Bonjour Madame Paré.
Vous êtes endocrinologue, diabétologue dans le centre antidiabète Marc Sancalais au sein de l'hôpital Abbas Ndao rattaché à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et l'on vous retrouve dans les studios de RFI en Foulful D et Mandincan, dont on remercie bien sûr toute l'équipe pour son accueil.
Notre santé, si on en parlait.
Une glande, différents symptômes possibles et plusieurs maladies ou troubles de la thyroïde. C'est ce que l'on va voir avec vous, docteur Charles Halim, avec une première question sur la santé des femmes précisément. Est-ce que l'on sait pourquoi eh bien, les dames, les femmes sont plus fréquemment que les hommes concernés par les troubles ou maladies de la thyroïde?
Alors, en termes de prévalence, effectivement, les femmes sont plus à risque. Nous retrouvons 7 à 10 femmes pour un homme dans le cadre de dysthyroïdie, de dérèglement de la glande thyroïde. Il y a plusieurs hypothèses, mais l'hypothèse la plus commune, on va dire, c'est tout simplement liée aux facteurs hormonaux. Nous savons que les œstrogènes chez la femme jouent un rôle plutôt inducteur de l'auto-immunité qui favorise justement ces dérèglements de la glande thyroïde en les stimulant ou en les bloquant. Et les androgènes qui sont présents chez les hommes qui jouent plutôt un rôle protecteur au niveau du système immunitaire, d'où la moindre fréquence chez l'homme que chez la femme. Mais nous savons que ça touche plus les femmes, surtout les femmes adultes jeunes, 20-40 ans. Et ça ne veut pas dire que les enfants ou les nouveau-nés sont épargnés ou encore les sujets âgés, mais il y a plus cette prédominance de femmes adultes jeunes.
Il y a aussi des variations au cours de la grossesse et là on va avoir des cas de troubles ou affections de la thyroïde spécifiques.
Effectivement, durant la grossesse, il y a des changements morphologiques mais également physiologiques qui affecte également la glande thyroïde. La glande, par exemple, durant la grossesse, augmente de volume. Donc, c'est assez fréquent de retrouver des goitres qui sont physiologiques durant la grossesse. Tout aussi bien, durant la grossesse, les besoins en hormones thyroïdiennes sont augmentés du fait de l'organogénèse, l'embryogénèse au niveau fœtal. Donc, les besoins accrus en iode aussi sont augmentés. Et dans des situations auxquelles il y a des carences, ça entraînera des dérèglements tant au niveau maternelle qu'au niveau fœtal. Mais bien évidemment, durant la grossesse, une particularité sur le plan immunitaire, c'est que c'est caractérisé par un phénomène d'immunotolérance. Il y a une atténuation, on va dire, de l'auto-agression par le système de défense, mais qui apparaissent bien évidemment aussi après la période postpartum. On retrouve la réapparition, l'aggravation de certains problèmes thyroïdiens qui étaient plus ou moins stable aussi durant la grossesse.
Docteur Alaïm, en ce qui concerne le facteur de l'âge, même si vous l'avez déjà dit, évoqué, il existe des cas d'atteinte précoce. Comment expliquer que l'incidence des dérèglements thyroïdiens, eh bien, ils augmentent avec les années? Ça nous renvoie à cette première question WhatsApp que pose Janine du Cameroun. Docteur Alaïm, est-ce que les maladies de la thyroïde peuvent toucher également les jeunes femmes?
Oui, les maladies de la thyroïde peuvent effectivement toucher les jeunes femmes, mais surtout les femmes en âge de procréer. Dans la plupart des études, le pic d'âge qui a été retrouvé, c'est entre 20 et 40 ans en général. Maintenant, il y a des situations aussi assez particulières auxquelles on les retrouve avant ces âges-là, à l'adolescence, ou voire même à l'enfance, ou tout aussi bien des âges qui dépassent les 50-60 ans ou encore les 70 ans. Maintenant, parmi les causes les plus fréquentes de dysthyroïdie, c'est les causes qui sont auto-immunes. Mais tout aussi bien, il y a d'autres facteurs génétiques et environnementaux qui interagissent là-dessus à l'origine de ce dérèglement.
Évidemment, avec les questions des auditrices, on va voir quels sont les principaux symptômes de ces affections thyroïdiennes. D'ores et déjà, pour poser les choses, docteur Alaïm, quels sont les signes qui peuvent faire penser qu'il faut faire une recherche de ce côté-là? Naya du Cameroun demande justement quels sont ces signes qui peuvent nous aider à repérer une hyper- ou une hypothyroïdie.
D'abord, les hormones thyroïdiennes, nous savons qu'elles sont vraiment vitales par rapport au fonctionnement de l'organisme. Donc, elles agissent au niveau du métabolisme de base, donc la régulation du système cardiovasculaire, le battement cardiaque, la régulation du système nerveux central, de l'humeur, mais également la régulation par rapport à la production de la chaleur, mais aussi au niveau digestif, la régulation du transit intestinal, mais également au niveau osseux, notamment par rapport à la maturation de l'os en tant que tel et la croissance chez les enfants ou la maturation du système nerveux central également chez les enfants. Donc, dans des situations auxquelles on se retrouve dans le versant hyperthyroïdie, c'est-à-dire il y a un excès d'hormones thyroïdiennes, dans ce cadre-là, le métabolisme de base est accéléré. Dans ce cadre-là, on retrouve des différentes manifestations en rapport avec cet excès d'hormones thyroïdiennes au niveau des organes cibles. Donc au niveau cardiaque, on aura des palpitations, on aura une augmentation des chiffres tensionnels. Au niveau du système nerveux central, on se retrouve face à une irritabilité, une nervosité excessive. Ouais. Également, une insomnie du fait de l'hyperactivité du système nerveux. Au niveau musculo-squelettique, on peut retrouver des tremblements. Et le fait que le métabolisme est accéléré, donc ça dépense énormément d'énergie. Dans ce cas-là, on a cette bouffée de chaleur à l'origine de ce qu'on appelle une thermophobie. La personne aura peur de la chaleur et une hypersudation également. Il y aura une accélération du transit intestinal. Dans ce cadre-là, ça donne un tableau de diarrhée qui sont motrices, matinales, le plus souvent le matin, rythmées par les repas surtout. Mais aussi, on retrouve cette perte de poids progressive malgré un appétit qui est conservé. La personne n'arrive pas à prendre du poids, ou au contraire, perdre du poids excessivement. Là, c'est dans le versant hyperthyroïdie. À l'inverse, lorsque la personne est en hypothyroïdie, donc il y a un déficit, une carence en hormones thyroïdiennes, là, le métabolisme de base est plutôt ralenti au niveau cardiaque, à l'origine d'une bradycardie, le ralentissement du système nerveux central, à l'origine d'une paresse, une asthénie physique qui est très très importante, voire généralisée, un ralentissement psychomoteur, une lenteur aux idéations, et bien évidemment un ralentissement du transit intestinal à l'origine d'une constipation. Mais on retrouvera également cet ralentissement de métabolisme de base, donc il y a moins de consommation d'énergie à l'origine de la prise de poids progressive au cours de cette hypothyroïdie.
Docteur, est-ce qu'il y a des examens, des analyses de référence pour dépister, diagnostiquer un trouble de la thyroïde en termes d'examen, de dosage? Qu'est-ce qu'on peut dire?
Alors, en termes de dosage, de première intention, on dose tout simplement l'hormone qui contrôle la production de la thyroïde, c'est la TSH tout court.
Charlène de RDC voudrait savoir s'il y a des profils en particulier qui sont plus touchés que d'autres par les dérèglements de la thyroïde.
Il n'y a pas de profil spécifiquement, mais on a quand même des facteurs de risque des sujets. Lorsqu'on a des antécédents familiaux, par exemple, de dysthyroïdie, de goitre, des anomalies thyroïdiennes, donc il y a la composante génétique et héréditaire surtout qui sera un facteur de risque à l'origine de ce dérèglement de la thyroïde. On retrouve aussi des facteurs environnementaux. Le stress joue un rôle déterminant et déclenchant par rapport au dérèglement de la thyroïde. On a le tabac, qui est bien évidemment goitrogène. À côté aussi, le statut iodé. Lorsqu'on est face à des carences en iode, l'iode, nous savons que c'est le substrat, le carburant indispensable à la thyroïde. Donc, en cas de carence en iode, on se retrouve en hypothyroïdie. Et bien évidemment, lorsqu'il y a un excès d'iode, on se retrouve en hyperthyroïdie.
Est-ce qu'il y a des aliments qui peuvent contribuer justement à cette hyperthyroïdie?
Oui, les aliments jouent un rôle majeur par rapport au bon fonctionnement de la thyroïde. De ces aliments, je prends l'exemple des aliments qu'il faudra éviter en cas d'hyperthyroïdie. C'est plus les aliments qui sont les excitants, le café, l'alcool, le tabac. Attention au tabac qui sont des facteurs d'aggravation, mais aussi de complications de cette hyperthyroïdie.
Est-ce que le manioc a une incidence sur l'activité de la thyroïde ?
Oui, effectivement, les tubercules, que ce soit le manioc, les patates, ils contiennent ce qu'on appelle les thiocyanates. Ce sont des aliments goitrogènes. Ils diminuent l'absorption de l'iode par la thyroïde, donc ils favorisent l'apparition d'un goitre. Mais également les crucifères, que ce soit les radis, les brocolis ou encore les navets, ce sont ces aliments-là que l'on appelle goitrogènes. Mais attention également au soja qui contient de l'isoflavone qui réduit également le fonctionnement de la thyroïde.
Docteur Charles Alim, tout de suite, nos premiers témoignages. C'est le moment de notre palabre féminin. Notre reporter Charlie Dupio a retrouvé Delphine, 42 ans, à Paris. Et elle échange avec Cindy. Elle a 34 ans par message audio sur WhatsApp. C'est Delphine qui entame la discussion.
Bonjour Cindy. Bah écoute, donc moi c'est Delphine. J'ai été diagnostiquée il y a à peu près 13 ans après la naissance de mon deuxième fils, suite en fait à des symptômes qui étaient des symptômes d'hyperthyroïdie. Enfin, ça, je l'ai su bien évidemment après. Donc, beaucoup de tremblements, énormément de fatigue également. Donc, suite à ça, on m'a fait passer une prise de sang, une échographie. On a diagnostiqué la maladie de basse d'eau et puis une échographie qui a montré que j'avais un goitre et également des nodules.
Un goitre, qu'est-ce que c'est ?
Alors, un goitre, en fait, c'est une grosseur dans le cou. Pour faire simple, ça donne un peu un coup de pélican. C'est pas du tout douloureux, mais c'est vraiment moche. Et ça peut être gênant pour tout ce qui est déglutition, même si moi, c'était pas mon cas.
D'accord. Bonjour, moi, c'est Cindy. Du coup, moi, j'ai été diagnostiquée en 2015-2016, il me semble. J'avais des petits symptômes de fatigue et un peu de douleur au niveau de la gorge. On a fait une prise de sang et sur cette prise de sang, il était marqué une petite inflammation de la thyroïde. Et après, j'ai pu aller voir l'endocrino qui a dit que j'avais une hypothyroïde. Depuis, je l'ai toujours. Parfois, elle est plus intense que d'autres selon les périodes. J'ai beaucoup plus de difficultés avec ma thyroïde dans les périodes d'été. Mais au-delà de ça, sinon, enfin, elle est plutôt, je dirais pas stable, mais mes symptômes ne sont pas énormes. Seulement juste les bouffées de chaleur, alors que normalement, quand on est en hypo, on devrait justement avoir des frilosités, et c'est pas du tout le cas pour moi, en fait.
Comment, aujourd'hui, vous vous êtes traitée ?
Alors, quand on m'a diagnostiqué basse d'eau, on m'a mis sous un médicament qui s'appelle le tyrosol, qui est un médicament pour traiter l'hyperthyroïdie. Mais normalement, c'est un médicament qu'on ne peut prendre que 2 ans, parce qu'il peut y avoir des impacts sur le foie et sur les reins. Donc à chaque contrôle, à chaque prise de sang, qui était très régulière, on vérifiait que le médicament n'avait pas d'impact sur mes reins ou sur mon foie, ce qui m'a permis en fait de garder ce traitement pendant bien plus longtemps, je dirais peut-être 9 ou 10 ans. Et puis ensuite, les symptômes se sont enchaînés, la maladie de basse d'eau s'est énormément développée, et là, on a été obligé finalement de passer par un endocrinologue, puis un chirurgien, et on m'a dit, écoute, là, on ne peut plus suivre avec les médicaments, il va falloir opérer.
Une ablation de la thyroïde ?
Donc oui, ça s'appelle une thyroïdectomie. Pour le coup, moi, on m'a enlevé la thyroïde, on m'a enlevé les nodules, On m'a enlevé le goitre. Après, j'avoue que l'opération fait extrêmement peur parce que c'est quand même une incision clairement dans la gorge. Et puis, il y a des risques liés à l'opération qui sont pour beaucoup de femmes des problèmes de voix et beaucoup de rééducation, ORL, etc.
Aujourd'hui, sans la thyroïde et du coup, forcément, avec un traitement, vous vous sentez comment ? Est-ce que vous vous sentez toujours avec des symptômes ou est-ce que c'est aussi compliqué qu'avant ou ça l'est un peu moins ? Enfin, je me demande vraiment.
Donc moi, personnellement, l'opération a été très bénéfique. Honnêtement, je n'ai plus les symptômes qui étaient très dommageables pour ma vie de tous les jours. Je n'ai plus la sensation de froid. Je suis beaucoup moins fatiguée. En tout cas, ce n'est plus dû aux problèmes de thyroïde. Je n'ai plus les diarrhées aiguës. Je me sens beaucoup moins irritable. J'ai l'impression d'avoir un comportement plus stable et de réagir plus normalement. Donc pour moi, cette opération, elle a été bénéfique et franchement, aujourd'hui, je me dis que c'est une bonne chose de l'avoir faite.
Témoignage au micro de Charlie Dupio et on entend vraiment un docteur Charles Halim, l'importance d'avoir un bon suivi quand on a un problème de thyroïde.
Oui, effectivement, s'il n'y a pas un suivi, une bonne prise en charge, c'est extrêmement grave parce qu'il y a des complications. Donc l'importance d'avoir un endocrinologue et le suivi également pour pouvoir adopter la bonne approche, mais également le choix du traitement, que ce soit médicamenteux ou encore un traitement chirurgical ou plutôt l'ablation par l'irathérapie, par exemple l'iode radioactif.
Alors, docteur Halim, on va tout de suite prendre une première question. On part pour Haïti.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
En ligne avec nous, Marie, on vous retrouve en ligne d'Arcahaë. Vous avez 23 ans. Marie, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes étudiante en infirmière, hein, félicitations. Et Marie, autour de vous, plusieurs personnes sont concernées par des maladies de la thyroïde. Avec quels symptômes ?
Alors, la perte de poids, les palpitations cardiaques, alors le trouble de sommeil, une faiblesse musculaire, la nervosité, l'irritabilité. Alors, ces personnes sont souvent présentées.
Avec ces signes-là, et ces personnes que vous connaissez qui ont des maladies de la thyroïde, est-ce qu'elles sont soignées pour ça ? Est-ce qu'elles sont prises en charge, Marie ?
Pas souvent, quoi.
Pas beaucoup de prise en charge. Est-ce que vous avez constaté aussi qu'il y a des croyances qui circulent, peut-être des fausses informations au sujet du goitre, au sujet des problèmes liés aux maladies de la thyroïde?
Oui, parce que on dit que ces formes de pathologie viennent lors de l'accouchement. Cette femme refuse de s'écrier, ou du moins, elle s'écrie trop fort.
Ah, la croyance, c'est que comme les femmes crient en accouchant, ça leur fabriquerait un goitre, c'est ça?
Ouais.
Ok, on va poser la question au docteur Halim. Qu'est-ce que vous en pensez à titre personnel, Marie ?
Puisque j'ai la connaissance en médecine, donc je sais que les pathologies alors, viennent lors d'une carence en iode. C'est la raison pour laquelle alors, je ne crois pas dans tout ce qu'on m'a raconté.
Sur ce lien accouchement-goitre, vous n'y croyez pas, docteur Halim, et vous allez confirmer hein, à Marie, ça n'a aucun rapport, c'est ça ?
Bien évidemment, il n'y a aucun rapport avec le cri durant l'accouchement et l'apparition de goitre. Alors, ce qu'il faut juste savoir, c'est que la glande thyroïde, durant la grossesse, augmente de volume, mais c'est vraiment physiologique, en fait. Maintenant, il arrive qu'il y a des petits nodules qui sont déjà présents avant même la grossesse et qui peuvent grossir un tout petit peu davantage durant la grossesse, ou encore des goitres qui étaient là, qui étaient passés complètement inaperçus, mais qui augmentent de volume durant la grossesse. Et bien évidemment, des troubles en rapport avec la carence iodée durant la grossesse, qui fait partie justement des supplémentations systématiques. Durant ces périodes, au même titre que le fer et l'acide folique, il faudra supplémenter ces femmes en iode, et qui est pris en charge de nos jours, bien évidemment. Donc ça n'a rien à voir avec les cris ou ces croyances-là.
Des explications qui ne sont donc pas du tout appropriées. Vous nous avez donné les vraies causes du goitre. Marie, vous avez une autre question au docteur Halim ?
Oui. Ça a à voir avec la thyroïdectomie. Donc, nous connaissons bien que la glande thyroïde aussi participe à la métabolisme de notre organisme. Donc, une personne alors, qui pratique une thyroïdectomie, donc, Alors, cela peut imprimer quoi?
Quelles sont les conséquences donc d'une opération de la thyroïde, d'une ablation de la thyroïde, docteur Halim?
Lorsqu'on enlève la thyroïde, on peut faire une ablation totale, c'est ce qu'on appelle une thyroïdectomie totale. Tout aussi bien, on peut faire une ablation qui est partielle, on enlève une partie ou un lobe en fait de la thyroïde. Si on fait une ablation totale, donc la personne n'a plus de glande thyroïdienne. Et dans ce cadre-là, qu'est-ce qui va se passer? Il faudra remplacer cette glande thyroïde parce que la personne est en hypothyroïdie définitive due à l'ablation de sa thyroïde. Et il faudra la remplacer tout simplement en donnant des hormones thyroïdiennes d'origine synthétique. Et c'est la substitution hormonale dont on parle, auquel on donne du lévothyroxine aux patients qu'ils prennent malheureusement à vie pour remplacer ces hormones thyroïdiennes. Parfois, si on fait une ablation partielle, parce que c'était juste un petit nodule qui a été localisé, donc on fait une ablation partielle, le reste du parenchyme qui a été laissé sur place peut être opérationnel et assure un fonctionnement tout à fait normal, donc une production normale de quantité d'hormones thyroïdiennes. Dans ce cadre-là, il n'y a pas de substitution à faire par la suite.
On a notre auditrice Marie qui parlait tout à l'heure de la présence du goitre. Docteur Halim, quand on vit avec un goitre qui est non traité, est-ce qu'il y a des risques par rapport à ça?
C'est possible d'avoir un goitre qui est présent et à long terme, qui était stable par rapport à son fonctionnement. Le risque, c'est quoi? C'est que il peut y avoir une apparition des nodules ou il peut y avoir des nodules qui sont sous-jacentes qui, au fil du temps, peuvent se dégénérer, donc le risque de cancérisation est là. À côté également, l'augmentation progressive du volume du goitre donnant par la suite des signes compressifs, notamment des problèmes respiratoires ou des problèmes de déglutition, c'est ce qu'on appelle dysphagie, ou encore ça comprime un peu les nerfs récurrentiels qui est responsable de la vocalisation, donnant des dysphonies. Et du point de vue esthétique également, chez les femmes adultes jeunes, quand c'est assez volumineux, ça peut être extrêmement gênant. Donc d'où des propositions de traitement radical, on va dire.
Et est-ce que par contre la grosseur, le goitre peut disparaître, on va dire, spontanément quand la patiente est traitée, quand elle prend par exemple des cachets, le goitre peut disparaître de lui-même?
Oui, lorsque la patiente est suivie, prend des traitements justement par rapport à l'hyperfonctionnement, c'est possible de réduire ce volume-là et également de la normaliser tout simplement. Au bout du traitement, parmi les critères, justement, les signes que l'on vérifie, est-ce que la patiente est complètement en rémission? On vérifie le volume du goitre initialement et à la fin du traitement, est-ce que ça a réduit ou pas? Et c'est des éléments qui sont déterminants, justement, pour dire que la patiente est en rémission après 12 à 18 mois de traitement antithyroïdien de synthèse.
Marie, voilà pour toutes ces explications. On vous dit un grand merci puisque vous nous faites aussi partager votre choix musical sur RFI. Votre programmation, c'est Zao avec ce titre « Tournez la page ». On va vous retrouver juste après un docteur Halim pour répondre à d'autres questions dans Priorité Santé.
J'ai vu sur ma route plein de paysages. Avec des mots, je peins des images. Sortie de ma cage, montée d'un étage. Aujourd'hui je plane dans les nuages. Et je laisse la vie m'emporter. Je laisse ma plume me porter. C'est pas si facile de tourner la page. Quand le présent m'échappe et que le passé me traque, je soupire pour dire dommage. Je m'arrête un moment juste pour une chanson, je rattrape le temps en volage. Et je laisse la vie m'emporter, je laisse ma plume me porter. Mes joies et mes peines. Et je laisse la vie m'emporter, je laisse ma plume me porter. J'entends cette voix qui m'appelle pour pardonner les mots. Tourner la page. J'essaie de tourner la page. comme un poète, libre comme une mouette. J'accompagne les solitaires au large, dans un océan de rage, sous le beau temps ou l'orage. Je dépose mon ancre et je nage, et je laisse la vie m'emporter. Je laisse ma plume me porter. C'est pas si facile de tourner la page. À ceux qui m'écoutent et qui de même sont otages, j'écris pour vous dire courage. À ceux qui m'écoutent, même lorsque je doute, je chante merci, je vous aime quand je suis lâche. Et je laisse la vie m'emporter, je laisse ma plume me porter. Mes joies et mes peines. Et je laisse la vie m'emporter, je laisse ma plume me porter.
Priorité santé, émission question de femmes, nous parlons des troubles et maladies de la thyroïde. Trouver la prise en charge adaptée, toujours avec nous dans les studios de RFI, en full des mandinquants, le docteur Charles Alim, endocrinologue, diabétologue, dans le centre anti-diabète Marc Sankalet au sein de l'hôpital Abbas Ndao de Dakar. On part en RDC à Kinshasa, où l'on retrouve maintenant Véronique en ligne. Véronique, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, vous êtes âgée de 57 ans, vos problèmes de thyroïde, ça remonte à loin. Et de quelle façon est-ce que vous êtes rendu compte qu'il fallait consulter?
C'était d'abord quand j'avais remarqué que j'ai la thyroïde, je suis partie consulter un médecin. Et le médecin là m'avait demandé de faire les examens au département nucléaire. J'avais fait les examens, l'échographie aussi. Lorsque les résultats étaient sortis, il m'avait proposé de faire l'intervention chirurgicale, j'avais refusé. Mais il m'avait prescrit un médicament là. Ce médicament là n'avait pas tenu. Et après 15 ans, quand j'ai commencé encore à remarquer qu'il y avait l'amaigrissement, il y avait la dépression et je ne dormais pas, l'insomnie, les enfants m'ont pris encore, ils m'ont ramené à la clinique universitaire. De là, on a encore recommencé les examens, les mêmes examens que j'avais fait auparavant. Lorsque les résultats étaient sortis, on m'avait prescrit les médicaments, la thyroxine. Et j'avais pris ce médicament-là pendant une semaine, il y avait un grand changement. J'ai commencé à dormir et j'ai commencé à récupérer ma santé et jusqu'à ce que le médecin m'avait seulement donné quelques suggestions. Je ne devais pas...
Je vous arrête, Véronique, parce que moi, j'ai une question à vous poser intermédiaire. Je voulais vous demander, Véronique, ça veut dire que la première fois, quand vous avez refusé la chirurgie, le médecin ne vous avait pas donné de traitement dans un premier temps?
Non, il n'avait pas donné. Il avait seulement donné un médicament. Là, il m'avait dit que cet médicament, si on vous donne ça, c'est pour te préparer pour l'intervention chirurgicale.
Donc, si je comprends bien, il voulait vous opérer, mais par contre, il ne voulait pas vous soigner?
Oui, il voulait m'opérer. Au lieu de me soigner, c'est ce qui avait causé un problème.
Donc, on va dire que ça a vraiment retardé votre prise en charge, hein?
Oui, ça avait beaucoup retardé, imaginez-vous, après 15 ans.
Oui, alors que quand on vous écoute, les médicaments, ils marchaient très très bien sur vous, ça vous a vraiment soulagé.
Oui, c'est ce qui m'avait soulagé. Puisqu'après 15 ans, là, on était parti encore à la clinique universitaire. C'est là où on avait recommencé maintenant les examens à zéro.
Ouais. Donc vous avez eu de nouveaux examens, vous avez eu un traitement qui a bien marché. On vous a donné aussi des conseils sur le plan de l'alimentation?
Oui, on m'avait donné les conseils. Je devais manger la nourriture avec le sel iodé.
Ouais.
Il faut ajouter un peu de quantité de sel iodé. Ne pas manger la nourriture qui a les quoi, les soja.
Parce que vous consommiez beaucoup de soja avant?
C'était rare, hein? Quand on fait la bouillie, on mélange avec des bleus, je prenais ça. Ça ne posait pas problème.
D'accord.
Alors, une fois quand j'avais mangé la margarine, ça m'avait fait vraiment du mal. J'étais retournée à l'hôpital, c'est par là où le médecin m'avait dit que non. Si vous regardez à la notice, hein, votre médicament là, on interdit de manger les aliments qui contiennent les soja.
D'accord, je comprends. Donc, vous avez eu un très long parcours de soins, Véronique. Aujourd'hui, vous vous sentez beaucoup mieux et on écoute vos questions.
Ce que je voulais savoir, Madame Caroline, j'ai des enfants aussi. Mmh. Est-ce que c'est héréditaire?
Une question importante, hein, Véronique, qui s'interroge sur ce caractère héréditaire de ces problèmes de thyroïde. Est-ce que vous avez des éléments de réponse, docteur Charles Halim ?
Alors, ce qu'il faudra comprendre, la génétique et l'hérédité occupent une place très, très importante dans le dérèglement de la thyroïde. Donc, s'il y a des antécédents familiaux de goitre, de problèmes de thyroïde, d'hypothyroïdie ou d'hyperthyroïdie, ou encore des maladies auto-immunes qui touchent la thyroïde, souvent, il y a des gènes, en fait, qui sont prédisposés à ce dérèglement. Souvent, c'est des gènes HLA, B8, DR3 ou 5. Ce sont ces gènes-là qui favorisent l'apparition. Maintenant, à côté de ces gènes-là, il y a aussi des facteurs environnementaux. C'est-à-dire, on peut être prédisposé génétiquement sans pour autant le développer, mais associé à des facteurs environnementaux, dans ce cas-là, ça précipite l'apparition et l'aggravation de la maladie. Étant donné votre âge, si vous avez des enfants, surtout des femmes, des jeunes femmes à l'âge adulte, s'il y a des signes d'appel, c'est en ce moment-là qu'il faudra faire un dépistage. Si on a des petites grosseurs au niveau du cou, par exemple, anormales, que la personne voit elle-même, ou encore lorsqu'on a ces signes, justement, que ce soit des signes en rapport avec une hypothyroïdie ou hyperthyroïdie, dans ce cadre-là, il ne faut pas retarder, il faut aller vite se consulter et faire le dépistage.
Voilà Véronique pour ces réponses. Un grand merci à vous pour votre participation. Très bonne journée à Kinshasa. On a un témoignage et des questions d'une auditrice de Côte d'Ivoire qui s'appelle Kadi. Elle est à Abidjan, elle a 50 ans. Il y a 4 ans, son généraliste lui a fait passer des examens qui ont révélé la présence de nodules à la thyroïde. Un an plus tard, après d'autres symptômes, des démangeaisons notamment au niveau des yeux, elle a vu un ophtalmologiste qui l'a orienté vers un endocrinologue, donc spécialiste de la thyroïde notamment, qui a diagnostiqué une maladie de Basedo. Docteur Halim, c'est quoi la maladie de Basedo ?
Alors, la maladie de Basedo, c'est une maladie qui est auto-immune, qui touche la glande thyroïde, spécifiquement plus les femmes, en fait, adultes jeunes. Donc, sa particularité, c'est qu'on retrouve des auto-anticorps, anti-récepteurs de la TSH, qui vont agresser la glande thyroïde. Et en les agressant, il stimule davantage en fait la glande thyroïde à l'origine de l'hyperthyroïdie. Et cette maladie de Basedo est la première cause de l'hyperthyroïdie dans le monde, mais surtout chez les femmes. Et sur cette prédisposition génétique, on retrouve des facteurs environnementaux, notamment le stress qui joue un rôle vraiment majeur. Et vraiment, j'insiste par rapport au stress qui constitue vraiment l'hypine irritatif en fait et déclencheur par rapport à la précipitation de cette maladie-là.
Alors, notre auditrice de Côte d'Ivoire, hein, qui a dit toujours, elle est suivie par un endocrinologue. Elle a fait un dosage sanguin, pris un traitement qui a été arrêté par le médecin parce qu'aujourd'hui, elle dit qu'elle est en rémission. Elle a fait des analyses de sang tous les 6 mois et qui a dit constate qu'il y a certains symptômes. Je rappelle un élément très important, son âge, 50 ans. Elle a notamment de la constipation, de grosses bouffées de chaleur et elle se demande si c'est la maladie de Basedo ou autre chose. Elle le dit, elle a un des dosages thyroïdiens qui sont à peu près normaux. Qu'est-ce que vous en pensez ?
À cet âge-là, il faut faire très très attention. Si elle a été traitée par rapport à la maladie de Basedo et qu'elle est complètement en rémission, donc dans ce cas, elle n'est plus sous traitement. Les dérèglements qu'elle présente à l'âge de 50 ans, souvent on retrouve en fait des carences œstrogéniques à l'origine de la ménopause. Mmh. Et ces signes de carence œstrogénique peuvent mimer bien évidemment les signes d'excès d'hormones thyroïdiennes, notamment les signes d'hyperthyroïdie. Dans ce cas-là, on peut se retrouver avec des bouffées de chaleur, mais c'est plutôt dû en fait à une carence œstrogénique. L'irritabilité, les signes de la ménopause en fait, tout simplement. Donc ça peut ne rien avoir avec son antécédent de thyroïde, notamment cette maladie de Basedo qui est complètement en rémission jusque-là.
Alors peut-être que Kadi devrait d'ailleurs aller en parler à son gynécologue. On va partir maintenant pour le Congo, où on va retrouver Lily qui nous a laissé ce message sur le répondeur WhatsApp de l'émission 33 7 61 18 46 41. On l'écoute.
Bonjour, je m'appelle Lily, j'ai 44 ans, je vous appelle depuis Brazzaville. On m'avait diagnostiqué la maladie de Basedo en 2016. De ce fait, j'étais sous traitement. Je prenais le tyrosol, le ténormine et un somnifère que j'ai malheureusement oublié le nom parce que je faisais des insomnies. Un an après, j'étais tombée enceinte. Malheureusement, j'avais perdu le bébé 4 jours après l'accouchement. Depuis décembre 2020, je suis sous traitement de lévothyrox à vie parce que j'ai subi une ablation totale de la thyroïde. J'aimerais savoir si les anomalies de la thyroïde ou encore son ablation peuvent entraîner l'infertilité, parce que je connais trois femmes qui en souffraient et depuis là, elles n'ont plus conçu. Et moi également, depuis l'ablation de la thyroïde, je ne conçois plus. Merci.
Question de Lily, hein. Une importance, son âge, elle dit des difficultés à concevoir depuis l'opération, elle avait 40 ans alors, et c'est vrai, docteur Charles Halim, que ça peut entrer, bien sûr, en ligne de compte.
Effectivement, les hormones thyroïdiennes influent par rapport à la fertilité. L'action, en fait, de ces hormones thyroïdiennes au niveau du système reproductif, ça permet de réguler le cycle menstruel, d'avoir un cycle tout à fait normal, la maturation de l'ovule ou encore la production du sperme chez l'homme, par exemple. Maintenant, chez ces femmes-là, lorsqu'il y a un dérèglement de cette hormone thyroïdienne, donc il y aura un dérèglement du cycle menstruel. Le plus souvent, elles ont des cycles qui sont beaucoup plus allongés, voire l'absence totale du cycle, ce que l'on appelle une aménorrhée secondaire. Et à côté également des modifications au niveau de la muqueuse utérine qui sera sujet à des défaut d'implantation en fait de l'œuf en tant que tel. Donc, du point de vue médical, lorsque la patiente présente une dysthyroïdie, un dérèglement de la thyroïde, c'est des sujets qui sont à risque de complications maternelles et fœtales durant la grossesse. Donc, on prend en compte. Tout aussi bien, ces hyperthyroïdies ou les hypothyroïdies peuvent entraîner des modifications durant la grossesse. D'où l'intérêt justement, si au cours de l'hyperthyroïdie, il faudra stabiliser cette thyroïde avant d'autoriser une grossesse ou de les mettre dans des bonnes conditions pour que la grossesse puisse se dérouler dans des bonnes conditions. Tout aussi bien lorsque la patiente est en hypothyroïdie et désire se procréer, il faudra que cette hypothyroïdie soit tout à fait substituée, soit stable, pour pouvoir autoriser cette grossesse. Dans le cas échéant, souvent, c'est des grossesses qui sont extrêmement difficiles, qui se soldent par des fausses couches la plupart du temps, et également des malformations qui apparaissent, que ce soit au niveau embryologique ou au niveau fœtal, qui souvent n'est pas compatible justement avec la vie intra-utérine.
Donc vraiment des grossesses à surveiller, on l'a bien compris. Maintenant à Abidjan, on retrouve en ligne Coro. Coro, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors, vous avez 63 ans, Coro. Vous, vos problèmes de thyroïde, ça remonte à quand?
Ça remonte il y a de cela 6 ans, plus de 6 ans je dirais. J'étais allée d'abord pour faire une consultation en oral L et je disais que je sentais une petite gêne au niveau de la gorge. C'est ainsi qu'elle m'a orientée vers un endocrinologue. Avec la palpation, elle m'a dit d'essayer d'avaler la salive pour qu'elle voie, elle voie un peu le mécanisme.
Et l'endocrinologue, il vous a demandé un dosage, il y a eu un diagnostic?
Effectivement, l'endocrinologue m'a demandé de faire des examens sanguins, et par la suite une échographie. Peu de temps après, au vu des résultats, j'ai commencé à prendre le lévothyrox. Et là, je passais de l'hyperthyroïdie à l'hypothyroïdie, voilà, il y avait un dysfonctionnement.
Ça veut dire qu'à ce moment-là, le médecin a décidé d'une opération, c'est ça?
Oui, oui. Après, quand il y a eu le réajustement, le docteur m'a orienté également vers le professeur chirurgien pour faire une opération, d'où une ablation totale de la thyroïde.
Ça veut dire que depuis, vous prenez un traitement très régulièrement?
Voilà, le lévothyrox, c'est ce que je prends régulièrement à jeun, sans problème.
Aujourd'hui, est-ce que vous diriez que vous êtes équilibré par rapport à votre thyroïde ou vous avez encore des symptômes?
Par moments, je suis équilibrée, il n'y a pas de souci. Il y a des moments où je passe de l'hypothyroïdie à l'hyperthyroïdie. Pendant 6 mois, je peux être, ça peut être stable. Et puis après, je descends. Ensuite, il y a des pics.
Avec le recul, excusez-moi, Coro, cette opération de la thyroïde, c'est quelque chose qui, d'après vous, vous a fait du bien, que vous ne regrettez pas?
Non, 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 je ne regrette pas. Loin des angoisses et des complications, je ne regrette pas du tout parce que ça m'a fait du bien. Au niveau mental, je suis tranquille et puis bon, j'ai moins de somnolence que par rapport à avant.
Malgré tout, vous avez quand même un petit peu de fatigue? Vous avez des questions à ce propos?
Oui, il arrive souvent d'avoir des coups de pompe. Alors, je vais comprendre un peu ce déséquilibre. On passe de l'hypothyroïdie à l'hyperthyroïdie. Donc, je vais comprendre, malgré la prise de levothyroxine, je vais comprendre un peu ce phénomène.
Le lien entre la fatigue et les troubles de la thyroïde, malgré la prise d'un médicament, docteur Charles Alim, qu'est-ce que vous pouvez éclairer notre auditrice d'Abidjan ?
Alors, si je comprends bien son histoire, c'est que après en fait la chirurgie, elle est en hypothyroïdie en fait définitive post-chirurgicale, d'où le traitement substitutif avec du levothyrox. Le levothyroxine en fait c'est de l'hormonothérapie. Hein. On remplace la thyroïde qui a été enlevée dans sa totalité la plupart du temps. Et cette hormonothérapie, les besoins en hormones varient d'un individu à un autre. Et varie aussi en fonction de l'état physiologique de la personne en question. Si bien que les besoins, les doses changent. Il arrive, il y a des situations auxquelles on a plus besoin de ces hormones-là, notamment quand la personne est hyperactive, par exemple, c'est différent d'une personne qui est moins active. Dans ce cas-là, les besoins sont beaucoup plus faibles, on va dire, plus élevés également en termes de besoins chez les enfants que chez le sujet âgé. Donc, en termes de dosage, si on fait une substitution, on essaie d'avoir la bonne dose par rapport aux besoins physiologiques de l'individu. C'est-à-dire, là, c'est vraiment l'hormone qu'on remplace, donc on essaie d'avoir le bon équilibre. Donc, ces doses-là varient. Il y a des paramètres également, des situations qui peuvent interagir avec ces médicaments-là, qui augmentent leur potentialité et à l'origine, bien évidemment, d'une hyperthyroïdie. On parle d'hyperthyroïdie induite par la prise de levothyrox. C'est dans ce cadre-là, il faut juste réduire la dose pour avoir un bon dosage qui est dans l'équilibre et on fait disparaître les symptômes de cette hyperthyroïdie. La patiente va se retrouver en euthyroïdie avec cette dose physiologique qui est adaptée par rapport à ses besoins.
Voilà pour ces explications, Koro. J'imagine que le médecin pourrait aussi vous conseiller de retourner en consultation pour ajuster tout ça. On vous remercie infiniment pour ce témoignage et on part maintenant pour la RDC.
RFI à Kinshasa, 105 FM.
Avec nous, c'est Valérie. Valérie, bonjour.
Bonjour, madame.
Alors Valérie, vous avez 33 ans. Il y a quelque chose qui vous préoccupe, une sensation que vous sentez depuis un certain temps. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qui se passe, s'il vous plaît?
Oui, il y a 2 ans, j'ai commencé à sentir une boule au niveau de la gorge, mais qui n'est pas visible.
Qui n'est pas visible? Vous avez consulté pour ça, Valérie?
Oui, j'ai eu à rencontrer un médecin spécialiste à l'hôpital général. Il m'a conseillé de faire certaines analyses. Il m'a demandé de passer les examens des hormones.
Des hormones. Il vous a demandé un dosage thyroïdien. Est-ce que vous allez le faire, cet examen qui est important?
Je suis allée voir les médecins qui devaient me faire les examens. Malheureusement, il y avait un mouvement de grève chez nous à l'hôpital général. Je n'ai pas pu rencontrer le spécialiste.
Vous avez donc une grosseur au cou en ce moment, Valérie. Est-ce que vous avez d'autres symptômes, par exemple des douleurs?
Oui, il y a 1 ou 3 semaines, je pense, que j'ai commencé à avoir des picotements au niveau de la boule, puis des petites douleurs au niveau du cou, la constipation et des fatigues qui sont un peu fréquentes là.
Et donc, vous avez des questions à poser au spécialiste qui est avec nous à Dakar et qui vous écoute. Allez-y.
Bon, je voulais d'abord avoir des éclaircissements sur les examens qu'on veut demander de faire. TDR, si j'ai bonne mémoire, TH,
TSH.
Je voulais qu'il m'aide à comprendre c'est quoi d'abord, ça veut dire quoi, et qu'il m'oriente.
Docteur Charles Alim, des questions simples, mais des questions importantes.
Effectivement, donc la TSH, ça veut dire thyroid stimulant hormone. C'est l'hormone qui stimule la thyroïde en fait. Ça provient du cerveau, de l'hypophyse, qui va réguler le fonctionnement de la thyroïde. Et de première intention, c'est ce que l'on fait. Si cette TSH est effondrée ou abaissée, là on sait tout de suite qu'il y a une hyperthyroïdie derrière. Et si la TSH est élevée, dans ce cadre-là, là on est face à une hypothyroïdie. Par contre, si la TSH revient normal, ça c'est tout à fait normal, donc il n'y a pas de dysfonctionnement au sein de la thyroïde. À côté, il faudra peut-être envisager de faire une échographie aussi pour caractériser en fonction de l'échographie, on pourra pouvoir mieux s'orienter.
Parce qu'elle a vraiment des symptômes évocateurs hein, quand elle parle de cette boule au niveau de la gorge, constipation, douleur au thorax, de la toux et de la fatigue, il y a pas mal de symptômes.
Exactement. Donc, ces signes, ce sont vraiment des signes d'appel. Il faut d'emblée une prise en charge spécialisée pour ne pas perdre du temps et bien évidemment avoir ce qu'on appelle une errance diagnostique en termes d'approche médicale.
Voilà Valérie, merci beaucoup pour votre appel. Bon courage dans l'accès aux soins à Kinshasa. On vous remercie également, docteur Charles Alim, pour votre éclairage, pour toutes ces réponses à nos auditrices. On vous dit à très bientôt, j'espère, dans Priorité Santé.
Je vous en prie, Madame Paré, à nous revoir.
Au revoir. Et avant de nous dire tout à fait au revoir, on se laisse avec Zazie Kaffa, Bad Habit sur RFI. Avant go chod go puna nobi, for the hood and a bomoji, midi le fe go in the diroti. Can't tell mom say money no day. Avant go school BTC nobi, no time for ABC. When they hustle pay, we go ball loki. We won't link up, money who rubi. Funds day with the bun on the dough. I'm the next to sit on the throne. Again, man, we go turn up the show. Aku amuna ban. I hope that you know I'm active for money matter. Cement, cement, the party scatter. Big dream, but I trust Allah. I get you, man, I'm my backstabber. Yeah, and trying to hurt my guys. Any reason to bless my mom. Smart work and my heart is pure. Normally, bro, if you walk, go shop. Along with many Atlantic since last week, yes, I was. But I know never ups, no, no, we will come my matanisi kadada. Nature, the matame, who get no, we back then, Muna Bada. And all Kasem people need Buluma, but back then, who guy in Akada. But a Maloney hate who God love my brother, you know, on a long ride. Like a joy behind a sunrise, and he ain't happen a ghost time. Nature, the Mumbang Google, and them say, Fichanya, Mili, don't cry. Make a tongue with this bag, all our enemies don't die. Priorité Santé, c'est fini. Merci à toute l'équipe qui chaque jour prépare et réalise votre émission. Ophélie Lassène, Talim Pou, Louise Kaledek, à Dakar, à la technique, Sarah Dombia et Malang Sonko, Laurent Philippot et Didier Bleu à Paris. Lundi, dans Priorité Santé, nous allons parler de deux maladies oculaires dont la fréquence augmente avec l'âge, glaucome et cataracte. On parlera diagnostic, prise en charge avec des spécialistes en direct pour répondre à vos questions. On se dit donc rendez-vous 9h10 temps universel lundi. D'ici là, bien sûr, restez à l'écoute de RFI et surtout portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec le groupe Sounou qui a le bon profil pour vous accompagner digitalement. Bonne année 2020.